Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, 4 ans après le début du soulèvement sur la place de l'indépendance à Kiev, quelle parole pour les artistes, pour les écrivains dans l'histoire en train de s'écrire? On en parle avec le romancier Andrei Kourkov, invité du festival Weekend à l'Est qui se tient jusqu'au 20 à Paris et invité surtout de la deuxième partie de la Grande Table après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, 30 ans après Charlotte Forever, 10 ans après 555 suivi de IRM avec Beck puis R, elle revient sur un album du deuil et de la transmission, produit par Sébastien. Rest sort aujourd'hui chez Because Music et Charlotte Gainsbourg est notre invitée à retrouver tout de suite sur France Culture ou plus tard en podcast sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Et bonjour Charlotte Gainsbourg.
Bonjour.
Fini les mots des autres, ça y est, c'est terminé, même s'ils vous habillaient plutôt bien jusqu'ici, ceux de Beck, ceux de Jarvis Cocker, des mots à vous tout au long de ce nouvel album. Pour qui, pourquoi vous écrivez?
Mais j'aime bien les mots des autres, j'aime toujours les mots des autres. Et j'adore les collaborations, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait seule cet album, j'ai fait avec Sébastien et avec sa complicité et sa vision aussi de ce que je voulais raconter, comment je voulais le raconter. Mais c'est vrai que j'avais des choses à dire, mais à me dire. C'est compliqué après de faire la promo d'un album que j'ai fait aussi égoïstement, avec... une envie de, pas forcément une envie de me raconter, mais d'être la plus sincère possible avec ce que je ressentais.
La recherche du mot juste, ça se passe comment? Est-ce que ça se passe déjà indifféremment en anglais ou en français, ou à chaque langue son registre pour vous?
Chaque langue est différente. J'aurais aimé écrire en anglais tout de suite parce que j'ai chanté en anglais jusque-là. Enfin, après mon père, j'ai voulu chanter en anglais. Et donc j'ai essayé et c'est sorti en français. Donc c'était juste spontané et j'ai un attachement à la langue française qui est complètement différent. C'est quand même ma première langue, donc j'ai une compréhension de la langue qui est bien plus maîtrisée quand même. Et par contre, enfin, j'ai réalisé que c'était sorti en français de manière assez évidente, mais j'arrivais qu'à être cash et un peu cru et la plus honnête possible. Par contre, dès qu'il s'agissait de refrain, il faut jouer un peu plus avec les mots, il faut être un peu plus dansant, un peu, et l'assumer plus, et là, ça venait en anglais. C'était plus facile de jouer avec l'anglais parce que j'ai une distance et que ça évoque pas les mêmes choses du tout. Donc je suis pas la même, non, effectivement, en anglais et en français.
Et quand vous écrivez, qu'est-ce que vous recherchez surtout dans un mot, parfois qu'il claque, qu'il choque, qu'il interpelle, ou c'est aussi la poésie des mots, ou tout simplement ça qui vous attire?
C'est la musique, ce que ça m'évoque. J'ai toujours été attachée aux mots, c'est pour ça que j'ai eu tant de mal à écrire et à me sentir capable. C'est aussi les maladresses, en fait. Et j'ai réalisé ça sur le tard, quand j'ai essayé de me faire aider, en ayant des textes pas aboutis, des artistes sont venus m'aider. Et m'ont restructuré mes textes, les ont un peu améliorés. Et donc c'est vrai que ça chantait plus, il y avait une vraie structure de refrain, couplet, mais au final ça me plaisait pas du tout. Et j'ai réalisé que ce que j'aimais, enfin ça me plaisait pas, c'était pas moi. Ce que j'aimais et ce qui me ressemblait, c'était mes erreurs, c'était les mots pas forcément plutôt maladroits, c'est ça que j'aimais.
Français, anglais, French, English, les deux ensemble, ça donne ça par exemple en ouverture de l'album.
Yeah.
Et dans cet album Rest, Charlotte Gainsbourg, il y a des mots d'enfants, dans ceux des premières fois, dans Ring, Ring aux Roses, dont on vient d'entendre un extrait, ou aux monstres odieux dans Les Crocodiles, des souvenirs d'avant, des refrains inspirés de comptines. Par moments aussi, vous retrouvez votre voix d'enfant, celle ou de jeunesse, celle de Lemon Incest. C'était quoi pour vous cette idée, ce retour au temps d'avant? Il y avait une envie d'ajouter aujourd'hui dans votre vie, à travers ces musiques, un zeste d'insouciance, ou c'était plutôt un geste de mélancolie?
Mais moi, j'ai toujours été nostalgique de mon enfance. Toujours, j'ai ça en moi. C'est pas que je cherche forcément à être mélancolique et à me tourner vers le passé, mais ça, je suis très attachée à des moments où effectivement j'étais beaucoup plus insouciante, beaucoup plus naïve, mais où j'avais un caractère tranché, où j'étais, les choses paraissaient beaucoup plus évidentes. Et en tout cas, par rapport à ma voix sur l'album, c'est Sébastiane qui était convaincue de ça dès le départ. Moi, je pensais pas, quand je l'ai rencontré, j'avais envie de sa musique, j'avais envie de cette énergie et de sa musique électronique. J'étais très inspirée par des musiques de films, notamment de films d'horreur, mais bon, donc une ambiance chaotique et brutale, et de mélanger ça à ma voix qui, je sais, est pas forte, d'avoir cette opposition. Et lui m'a tout de suite dit, mais il faut que tu chantes en français et il faut que tu prennes la voix que tu avais quand tu chantais avec ton père. Il faut revenir à cette fragilité-là. Et ça m'a, sur le coup, ça m'a énervée. Enfin, j'avais pas envie de ça. Et petit à petit, j'ai compris ce qu'il voulait dire aussi. Et c'est vrai que, au lieu de lisser les voix en faisant des voix doublées comme j'ai pu le faire sur l'album de Beck ou l'album de R, cette fois-ci, c'était l'idée de faire une voix seule, très en avant et avec toute la tessiture et toute la, bah, ce que je peux mettre en avant, qui est effectivement de pas avoir une voix de chanteuse et plus une personnalité à travers les maladresses.
Ça veut dire que cette fragilité-là, elle existe peut-être encore aussi quelque part en vous, qu'il fallait la faire remonter pour retrouver cette voix d'hier, même si l'effronté d'avant a un peu passé le relais. À l'image, on voit la mère que vous êtes devenue dans le clip de Deadly Valentine. On retrouve vos deux filles dans celui de Ring of Roses, votre fils. Pourquoi les mettre à l'image? Il y avait envie de constituer un nouvel album de famille pour vous, Charlotte Gainsbourg?
Parce que avec l'idée de prendre une caméra, on se pose forcément la question de qui on veut filmer et qui on veut regarder. Et on veut regarder les gens qu'on aime. Donc c'était évident que, comme il y avait des personnages, j'ai pas fait les clips en pensant à eux. J'avais des idées derrière chaque titre et les rôles se présentaient. Et forcément, un jeune garçon de 20 ans que je voulais filmer, oui, c'était mon fils. Donc, je lui ai demandé. Et pareil, je voulais un parcours d'enfant à vieille dame. Et c'était évident que je demande à mes filles. Après, ils auraient tous pu refuser. Moi, j'avais envie de prendre du plaisir à voir si eux aussi pouvaient prendre goût à ça. C'est vrai que moi, on me l'a offert très tôt. À 12 ans, j'ai pu m'essayer à la chanson avec Lemon Incest, m'essayer au cinéma avec Paroles et Musique. Et c'était une telle chance. Aujourd'hui, je réalise que c'était une grande générosité de la part de mes parents de m'offrir. Enfin, c'est pas eux qui ont permis que je sois prise pour Paroles et Musique, mais de m'avoir lâchée comme ça un peu dans la nature, parce que c'était un tournage, on a fini au Canada, j'étais toute jeune et je démarrais une nouvelle vie de mon côté. J'ai pu faire mes marques et c'était une vraie découverte quand même.
Celle que l'on entend un peu moins dans cet album de famille, hein, c'est votre mère Jane. Vous êtes la fille de Serge dans cet album, vous êtes la sœur de Kate, on va y venir aussi. Mais la mère, en fait, ici, dans Rest, c'est vraiment vous. Et c'est d'ailleurs en mer qu'on va vous retrouver au cinéma, en mer de Romain Gary, le 20 décembre, dans l'adaptation de La Promesse de l'Aube d'Éric Barbier avec Pierre Ninet, une mère courage, mais aussi une mère louve, pleine de grands projets pour son fils. Dans la vie, vous êtes une mère comment ?
Mais c'est vrai que pour La Promesse de l'Aube, je ne me suis pas du tout inspirée de ma mère, heureusement. Et je lui dis avec avec beaucoup d'affection, parce que je jouais justement plus le côté russe de mon père et c'est une mère, c'est difficile de la défendre et en même temps, elle fait tellement de choses par amour. C'est un rôle intense. Mais moi, comme mère, je ne sais pas qui je suis. Ma mère, en tout cas, c'est vrai qu'elle est moins présente sur l'album, mais elle l'était. Il y avait un autre titre qu'on sortira peut-être plus tard qui lui était consacré. Je suis plus pudique avec ma mère.
C'est comme ça.
Par contre, depuis que j'ai pris une caméra, je me suis aussi demandé qui je voulais filmer, mis à part Yvan. Peut-être qu'un de ces quatre, il se prêtera au jeu.
Alors Yvan, c'est monsieur, pour ceux qui ne sauraient pas.
Mais j'ai filmé ma mère. Je suis allée au Japon, la filmer sur scène et me rapprocher d'elle avec une caméra. Donc elle est peut-être pas présente sur l'album, mais elle est dans ma tête constamment.
Vous avez employé le mot pudique, c'est un album de l'intime et de l'impudeur, avez-vous dit aussi. Mais quand les corps s'exposent un peu partout, aujourd'hui, dans la mode, au cinéma, à la télé, dans les musées, qu'est-ce que c'est être impudique pour vous, aujourd'hui ?
Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, effectivement, avec la... avec les médias, les social media, tout ça, c'est compliqué à comprendre. Ces nouvelles générations, je les trouve compliquées à comprendre. Mais en tout cas, je me suis autorisée à être totalement impudique, oui, parce que je faisais cet album dans une bulle et j'avais pas peur. Et ça me paraissait normal de me livrer. Mais la pudeur me venait de la musique, ou grâce à la musique de Sébastien, parce que je pouvais faire un texte sombre ou un peu cru ou un peu triste et douloureux si j'avais une musique à l'opposé de ça. Si j'avais une musique, j'aurais jamais fait des textes larmoyants et une musique dramatique, enfin mélancolique et triste. Il fallait qu'il y ait une opposition. Et ça, je l'ai bien compris avec le dernier morceau, Les Oxalis, où c'est une balade dans un cimetière sur un rythme disco, il fallait qu'il y ait cette contradiction.
Une balade dans un cimetière entre les tombes de votre père et de votre sœur dans Les Oxalis, une chanson aux accents très Mélodie Nelson, quand même, à l'héritage assumé. Être impudique, c'est peut-être tout simplement parler de soi avec ses propres mots, parler de ses blessures, comme ce morceau écrit pour votre sœur Kate, décédée en 2013, dressée à l'alcool sans qu'il te console, perdue à jamais, écrivez-vous, crois-tu qu'on se ressemble ? On devait vieillir ensemble, notre monde imparfait.
Je pensais
écrire sur votre sœur Kate, Charlotte Gainsbourg, écrire sur votre père Serge aussi, on imagine que c'est une manière de se réapproprier une histoire que tout le monde pense connaître, à votre manière aussi, transmettre des émotions personnelles. Est-ce que c'est vraiment la perte qui est le moteur de ce disque ou c'est plutôt l'absence ?
Mais ma Kate était vivante quand j'ai commencé l'album, donc c'est pas... C'est pas sa mort qui a porté le projet. Mais comme c'est arrivé pendant que ça se faisait, c'est vrai que ça a pris une autre tournure et j'étais... je pouvais pas parler d'autre chose et j'avais pas envie de parler d'autre chose. Et le texte que j'ai écrit sur mon père, c'est vrai que... oui, ça parle de lui mort, donc, mais c'est comme ça que c'est venu et c'est une déclaration d'amour à ma manière. Et c'est des textes que j'avais écrits, alors les crocodiles, le texte sur mes enfants, dans vos airs. Ça, c'était des textes que j'avais écrits avant celui sur moi, avec l'inconfort et la timidité. Tout ça existait avant et ça donnait quand même un ton. Après, avec cette perte, j'ai décidé de partir, mais c'est une fois à New York que l'album a réellement pris forme parce que Sébastien est venu et on avait des démos, les textes étaient déjà en cours, mais ça a pris forme là-bas et c'est vrai que j'ai été libérée d'une certaine d'un certain jugement que je me mettais moi-même mais d'une certaine peur et c'était il y avait plus je m'en foutais complètement que ce soit à la hauteur ou pas, j'avais des choses à me dire. Mais donc c'est pas un album sur le deuil, c'est pas un album sur la perte, c'est peut-être un album sur le temps et sur je sais pas, c'est toujours un état des lieux aussi.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Invitée de La Grande Table aujourd'hui, Charlotte Gainsbourg, pour son album Rest, un album sous hypnose avec ses boucles électro-répétitifs et entêtant comme ce titre éponyme Rest, composé avec Guy Mann des Daft Punk, dont on peut écouter peut-être quelques accents de la boucle, tout en continuant à papoter. Charlotte Gainsbourg, quel rôle vous avez donné à cet artiste, Sébastien, qui a collaboré avec vous? Il est compositeur, il est producteur, il est remixeur, c'est un peu l'électron libre de l'électro-française du label Headbanger. Il a été un compagnon de route sur cet album. Est-ce qu'il a aussi eu un rôle d'arbitre ou est-ce qu'il était trop jugé parti à la fois?
Ah non, il était complètement arbitre et je me fiais vraiment à son avis, son jugement. C'était le seul en fait qui pouvait me juger au moment où on enregistrait parce que en fait il n'était pas très emballé au départ. Enfin, on s'est rencontrés, c'était un peu étrange comme rencontre, mais bon, moi j'ai vraiment insisté et il m'a filé des démos après lui avoir donné une liste d'inspiration. Il a répondu avec, je sais plus, 5 ou 6 démos qui étaient exactement ce dont je rêvais. Donc, je savais que je voulais travailler avec lui, je savais que je voulais cette énergie et son talent. Mais après, on n'arrivait pas à se trouver. On n'arrivait pas à travailler. Et je lui ai filé quelques textes pour sentir si ça valait le coup, si mon écriture valait le coup. Et je le voyais pas très emballé. Ça, c'était il y a très longtemps. Et donc, on était quand même, moi, j'étais pas satisfaite de ce que je faisais. Donc, c'était pas encore sûr que j'allais écrire tous les textes. Je me laissais encore entrevoir de m'adresser à un auteur ou à quelqu'un d'autre. C'est uniquement quand il est venu en studio à New York que je lui ai montré les textes que je voulais, enfin qui étaient prêts, que j'ai senti qu'il y répondait et que c'était, il validait mon écriture et il l'encourageait. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu confiance en moi, hein, En lui, j'avais toujours confiance, mais j'ai eu confiance en moi et j'ai pu vraiment me plonger dans l'écriture et prendre plaisir enfin à faire que ça, ces puzzles prennent forme, quoi.
Charlotte Gainsbourg, il y a beaucoup de Sébastien et de vous dans cet album. Il y a aussi un morceau entièrement écrit et composé par Paul McCartney. Là, on touche carrément aux légendes. Dans sa bio parue en français à la rentrée, le critique rock du Times, Philip Norman, rappelle ces mots de Lennon sur son camarade bassiste, un mec qui écrit des histoires sur des gens emmerdants qui font des choses emmerdantes. On le disait conformiste, ce Paul McCartney. Il serait pas devenu le plus cool des Beatles, quand même, pour vous?
Il est incroyable. Il est incroyable. Je regrette de ne pas avoir eu plus de courage à lui poser plus de questions. Je l'ai rencontré, enfin, je l'ai vu deux fois. Une première fois, c'était un déjeuner où il a accepté de me rencontrer et où à la fin, je lui ai demandé s'il pouvait penser à une chanson qui me serait destinée. Il l'a fait. Ça, c'était un peu. Enfin, j'ai reçu une chanson comme ça par email sans pouvoir y répondre vraiment et sans savoir d'où elle sortait, mais j'ai vécu avec ce petit trésor dans mes tiroirs. Et avec Sébastien, on en a fait autre chose qu'il a aimé, et il a aimé suffisamment pour venir enregistrer avec nous en studio. Il a enregistré des instruments dessus. Et là encore, j'ai pas osé lui. Je sais pas, bien sûr, on l'observait, mais on essayait de faire comme si on était très à l'aise, alors qu'on n'était pas très à l'aise. C'était. Mais voilà, je garde en mémoire précieusement ces deux moments.
Alors, il y a Paul McCartney, il y a l'influence du cinéma que vous avez évoqué sur votre musique, de Kubrick à Lars von Trier. Et puis, il y a la littérature, la poésie, avec un hommage à la poétesse américaine Sylvia Plath, morte à 31 ans en 63, dont vous reprenez les mots, ceux de Match Girls, Love Song, dont le morceau Sylvia Says. Et elle dit quoi, Sylvia? Elle dit « Je ferme les yeux et le monde en crève, j'ouvre les paupières et le monde renaît ». Écrit en 62 sur le complexe d'Electre, équivalent d'Oedipe pour les fils, un poème très sombre d'elle aussi. Il s'appelle Daddy, c'est une charge contre le père ou une déclaration d'amour et surtout une dénonciation de la domination masculine. Daddy, l'un de ses plus connus, dans sa voix, on en écoute un extrait.
Daddy, you do not do any more black shoe in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or hachu. Daddy, I have had to kill you. You died before I had time, marble heavy, a bag full of God, ghastly statue with one gray toe big as a Frisco seal, and a head in the freakish Atlantic where it pours bean green over blue in the waters off beautiful Nauset. I used to pray to recover you, ach du, in the German tongue in the Polish town, scraped flat by the roller of wars, wars, wars.
Et sa voix se fissure et on entend ces mots qui font écho aux vôtres. Papa, j'ai dû te tuer, tu es mort avant que j'en ai eu le temps. Lourd comme marbre, un sac débordant de Dieu, grand comme un phoque de Frisco. Ça, c'est ce qu'elle écrit. Vous, dans Lying With You, vous écrivez, vous chantez, ta jambe nue sortait du drap, sans pudeur et de sang-froid, j'étais allongée contre toi. Laisse-moi donc imaginer que j'étais seule à t'aimer, d'un amour pur, de fichérie, pauvre pantin transi. Alors, complexe d'Electre ou pas pour vous, Charlotte
Gainsbourg? Mais c'est incroyable d'entendre sa voix. J'avais jamais entendu la voix de Sylvia Plath.
Ça a été enregistré peu avant sa mort, juste après qu'elle ait écrit ce poème Daddy par la BBC, le 30 octobre 62.
Ouais. Ah, mais j'aimerais bien en entendre plus.
Le génie féminin qu'elle évoque, écrasé par le patriarcat. Hier, on rendait hommage aussi à l'anthropologue Françoise Héritier, disparue, qui disait sur France Culture à propos de l'affaire Weinstein, du moment féministe que nous vivons. C'est une question des fronts de lutte. Souvent, je vois la cause des femmes comme une citadelle à la Vauban. L'attaque peut venir d'un seul côté ou de plusieurs. Il faut partir à l'assaut de ce statut de domination qui représente tellement de choses intriquées ensemble. On est dans un moment collectif de libération de la parole. Vous, on a le sentiment que vous agissez parfois plutôt à la Christine Angot, avec cette idée de « on se débrouille, tout ça c'est personnel, notre rapport à notre féminité, nos rapports à notre place dans la société ». Et qu'au cinéma, ou dans la chanson de Limon Encest à Nymphomaniaque de Lars von Trier, vous avez toujours été dans une forme de transgression, que ça a été un moteur aussi pour vous. Ce qui est questionné aujourd'hui, c'est aussi la représentation des femmes à l'écran, Charlotte Gainsbourg. Est-ce que vous pensez qu'on va trop loin en interrogeant toujours cette place devant la caméra, qu'il faut se méfier aussi des relations très normées, trop normées, vers lesquelles on pourrait basculer dans l'art entre les hommes et les femmes?
Peut-être qu'il faut se méfier, mais je trouve qu'il y a une grande différence entre la volonté de se montrer, la volonté d'incarner des personnages qu'on a compris, et quand on se laisse manipuler, parce que c'est mon cas, je l'ai fait avec plaisir. Je l'ai fait en sachant que là où je voulais aller, ou en découvrant, mais c'était mon travail. Ça m'a jamais dépassé, ça m'a dépassé, mais dans un sens où je lâchais prise, et donc il y a toujours eu du plaisir et un désir de faire un métier. Ça a jamais pris le pas sur qui j'étais en tant que femme dans la vie. Et je pense que c'est très important artistiquement de tout explorer. Je trouve qu'il faut pas se limiter. Après, c'est la brutalité et le manque de pouvoir des femmes qu'on dénonce aujourd'hui. Le portrait fait... Enfin, je trouve ça fort qu'aujourd'hui, les femmes prennent la parole. Ça, c'est évident, c'est une chance, et il faut profiter de ce moment, c'est sûr. Et il y aura sans doute pas de retour en arrière, j'espère. Mais il faut pas, je trouve, condamner le rôle qu'on a eu jusqu'à présent, ou l'image qu'on a eue jusqu'à présent. Je trouve qu'il faut que ça nous permette d'avancer, mais pas de critiquer ou de forcément condamner, voilà, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a montré artistiquement, hein.
Mais peut-être que la solution, c'est aussi de se saisir, nous, de la caméra, ce que vous faites, vous le disiez.
Oui, c'est vrai.
Hein, pour les clips de cet album Rest, l'album qui se termine sur la voix de votre fille qui dit « c'est fini, maman, mais ce n'est jamais fini ». Quand il y a de l'amour, c'est jamais fini. Toujours des nouvelles pages qui se tournent. Et c'est un peu le « encore, encore, encore », les derniers mots des fantômes d'Ismaël, d'Arnaud Desplechin, dans lequel vous tournez. Encore, encore, on imagine que vous avez encore beaucoup d'envie. Un grand merci à vous.
Merci à vous. Merci.